No estaba. No pensó bien. Chao.
Je pourrais rentrer plus tôt. Si j'avais encore deux visites à faire au soir, il n'en est plus qu'une, c'est bien. Oh, c'est magnifique, cette lampe-là. Fantastique.
T'es en ligne déjà ?
Non, non, pas du tout. Noémie. Oui, mais il faut allumer les trois, les lampes-là. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour Muriel, bonjour Annette et tous les autres. Tu veux bien fermer le feu, Noémie, le feu. Voilà. Chers amis, nous allons aborder un sujet très important. Y a-t-il encore des esclaves aujourd'hui ? Y a-t-il encore des esclaves aujourd'hui ? Noémie vient de me le répondre tout de suite. Elle termine ses études, elle a des examens, elle a ses cours à préparer, elle dit « Oui, moi oui ». Voilà. Y a-t-il encore des esclaves aujourd'hui ? Eh bien, je pense que, réellement, il y a de plus en plus d'esclaves aujourd'hui. Oui. Il y a des esclaves dans l'extrême pauvreté, par exemple, les personnes au Pakistan, là, adultes et trois enfants, 1,50€ pour 15 heures de travail tous ensemble. Et puis, il y a ceux qui courent, ici. Bien sûr, ils ont une maison, ils ont un chauffage, ils ont une voiture. Ils bossent, ils courent, et ils payent les factures, et pour finir, ils sont pas guère plus avancés. Ils ont l'impression d'être un peu mieux s'ils vont faire un peu de ski ou des vacances, mais ils sont esclaves. Le système nous rend esclaves. Et Dieu ne l'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu. Et clairement, il faut revoir de fond en comble tout ce que notre vie pour supplier le Seigneur de sortir de l'esclavage. Alors, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Vous pouvez fermer les roulettes du feu, là, si vous voulez bien. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Jésus est venu pour nous donner une liberté par rapport à toutes sortes de servitudes, extrêmement forte, s'il vous plaît. Et ces servitudes font des hommes, créent des malheureux, évidemment, mais aussi, il y en a, pour s'en sortir, qui sont des oppresseurs, qui sont tyranniques, et d'autres qui sont des opprimés. Mais d'une façon comme de l'autre, cet esclavage se perpétue, et Dieu ne veut pas ça. Jésus, le Fils de Dieu, venu du ciel dans sa gloire, pleinement suffisant lui-même et riche de sa gloire, qui vient sur une terre pour naître dans une étable, pour être 3 ans un exilé, 3-4 ans, et puis ensuite, fils d'un charpentier, travailler péniblement, et ensuite prêcher l'amour de Dieu, le pardon des péchés, par son sacrifice à la croix, et être rejeté. Et en tout, Jésus était beaucoup mieux là où il était. Le Christ était beaucoup mieux là où il était avant. Aujourd'hui, il est dans la gloire et il souhaite que nous venions dans sa gloire. Il souhaite que nous soyons libérés de l'esclavage que nous subissons, d'une façon comme de l'autre. Mais le pire des esclavages, c'est pas l'esclavage sociologique, social, professionnel. L'esclavage sexuel, c'est l'esclavage du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est l'orgueil qui ronge le cœur de l'homme. C'est la vanité, le moi-je, et qui enclenche tous les autres esclavages. C'est la source même de tous les esclavages. Donc, Jésus est venu pour que cette racine du mal soit ôtée du cœur de l'homme. C'est ça la clé de la venue de Jésus. C'est pas simplement un homme bon qui nous demande d'être bon et de faire des bonnes choses, ça ne suffit pas. Ça, on trouve ça aussi chez Bouddha, on trouve ça dans beaucoup d'autres tendances religieuses. Mais il faut absolument que nous déposions à Dieu cette racine mauvaise qui est en nous, qu'on appelle le péché, et que Dieu transforme notre âme, notre cœur, pour que ça ne règne plus. Même si c'est encore là, il y a des reliquats, il y a des relents de ce péché qui reviennent tout le temps, ce n'est plus une puissance qui nous domine et nous sépare de Dieu. Alors, le mot péché vient du mot pécha en hébreu, c'est-à-dire un archer qui prend un arc, qui tire une flèche et qui rate son but. Donc l'homme rate son but simplement parce qu'il fait le malin et il ne sait pas réussir sa vie par lui-même. Il a besoin de Dieu, il a besoin de dépendre de Dieu, pleinement libre, en sachant que Dieu l'aime et Dieu ne veut pas d'esclavage pour lui. Dieu veut une pleine réalisation pour l'homme, un plein accomplissement. Mais la suite du péché, de l'insurrection d'Adam et Ève et de tous qui suivent, nous aussi, les suites de cette insurrection nous font penser que Dieu veut nous aimer pour nous mener par le bout du nez et nous dominer. C'est faux. Il n'y a rien eu de plus beau sur la terre que la venue de Jésus. Et Jésus n'a jamais dominé, Jésus n'a jamais imposé quoi que ce soit. Jésus ne veut pas nous imposer quelque chose, il nous appelle dans son amour, il nous appelle dans sa sainteté à répondre librement. Donc, normalement, la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par papa et maman. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par Monseigneur ou Monsieur le Pape ou Monsieur le Pasteur. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par un système. La foi chrétienne, c'est une adhésion personnelle d'amour à Jésus, à son message, et c'est une adhésion personnelle à sa personne vivante aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on sort du péché, c'est comme ça qu'on en est libéré. C'est comme ça qu'on peut passer d'une situation ancienne, esclave, à une réalité autre, liberté et dignité. Noémie se marre, elle est tout près de moi avec son châle tournant autour de moi et vous allez voir, ça ne m'étonnerait pas qu'elle le dépose sur mes épaules. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Retenez Jean 8, verset 36. Voulez-vous être affranchi, sortir de l'esclavage? Dites-le à Jésus. Dites-le à Jésus. Je pensais être extrêmement libre un jour en créant une entreprise et en créant du travail, en aimant mon prochain, en essayant que d'autres puissent acquérir un métier, une formation. Et donc, c'était un grand idéal. Et puis, pour finir, c'est devenu un enfer. Je courais tout le temps, 15-16 heures par jour. Et je ne voyais pas tellement le cœur des hommes autour de moi qui changeait, à part une exception ou deux. Et ma femme me dit un jour à table, « Mais quand est-ce que tu finiras de croire que toute ta méthode d'autogestion et ta méthode de consultation, de négociation, de groupe, va remplacer le Saint-Esprit ?» Elle avait raison, elle m'avait lancé un pavé dans la figure, mais c'était clair. Et un autre jour, elle m'a dit, « Mais tu sais, t'as une maîtresse. Comment ça, j'ai une maîtresse ?»« Eh bien oui, c'est ton entreprise. » Donc j'étais tombé dans l'idolâtrie, j'étais tombé dans l'esclavage. L'esclavage de l'entreprise et des objectifs que je me fixais et que je me battais comme un lion pour réaliser. Il a fallu que je, suite à ces deux percussions, je vais dire, que ma femme m'a envoyées, comme on tape sur un tambour, là, sur une timbale, deux coups de percussion, il a fallu que je me réveille et j'étais dans mon camion et je disais, Seigneur, elle a raison, après que la colère soit passée, et je disais, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à m'en sortir, à sortir de cette vie de dingue. Je ne vois plus ma femme, je ne vois pas mes enfants, et pour finir, ils vont devenir des étrangers. On sera des étrangers dans la même maison. On aura tout raté. Et donc, ce que j'avais espéré être une pleine liberté, un plein accomplissement, était devenu un esclavage. Heureusement que le Seigneur avait mis à côté de moi quelqu'un qui a ouvert la bouche. Je ne dis pas que j'étais toujours d'accord. Elle a toujours dit des choses super saintes, mais en tout cas, ce jour-là, le Seigneur s'est servi d'elle. Et il a fallu que je demande à Dieu de m'affranchir de tout ce qui je m'étais englué. C'est littéralement englué. J'étais esclave. Chers amis, réfléchissez bien à votre vie. Êtes-vous sur un chemin qui va vers la liberté, tel que Dieu le demande, ou êtes-vous sur un chemin d'esclavage dans notre société moderne? Il y a bien sûr des gens qui n'ont pas choisi d'être esclaves et qui le sont. Mais je pense à ces gens qui fabriquent la brique, à qui on envoie un peu d'argent tous les mois. On a pu créer une école au Pakistan. Ils sont les esclaves. Et ça, c'est indiscutable. C'est une horreur. C'est inacceptable. Oui, Seigneur Jésus, tu reviendras et tu vas libérer ces peuples opprimés. Tu vas libérer ces gens qui n'ont jamais rien vu pour être esclaves et qui le sont, de grand-père en fils, etc., de grand-mère en fille, etc. Ce qui est encore pire pour les femmes, parce que parfois on les viole ou on les enlève. Alors, l'affranchissement est une œuvre considérable qui n'est pas à la portée de nos vies. L'affranchissement peut être possible par une puissance divine en nous, pour nous libérer de nos liens dans lesquels on s'est englué. Et, en parlant du monde, avec la pollution économique, avec tous les dirigeants tels qu'on les a dans le monde actuellement, de plus en plus tous malades, eh bien, il faut être affranchi. Il faut qu'il y ait un changement. Le croyez-vous? Dans la Bible, on en parle. On parle des temps de rafraîchissement, on parle des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Non pas que Dieu aura détruit la terre, mais l'homme détruit la terre, détruit l'humanité. L'être humain est un prédateur. Et c'est Dieu qui refera de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est Dieu qui rétablira une société affranchie, une humanité affranchie, dans la mesure où nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Il ne veut pas de candidat menteur dans son royaume des cieux lorsqu'il l'établira. Il ne veut pas de gens doubles et tricheurs. Je pense que le temps de la tricherie et du mensonge doit se terminer et choisissons notre chemin. Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors pourquoi tu es roi? Oui, je suis roi, tu l'as dit. Je suis venu rendre témoignage sur la vérité. Mais la vérité, elle sera installée fortement. Bon, maintenant, après tout cela, je voudrais prendre des cas très vivants, très concrets. Et je vais aller dans le deuxième livre des rois avec vous. Le deuxième livre des rois, au chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Vous savez qu'à l'époque d'Élisée et d'Élie, il y avait un tas de gens qui se disaient représentants de Dieu et qui trichaient, qui travaillaient avec Acab et Jézabel, des gens horribles. Et ce qui se passe, c'est que voilà, une de ces personnes qui prétendait servir Dieu était quelqu'un qui craignait Dieu, donc qui était dans un cadre d'honnêteté, de droiture envers Dieu. Mais il est décédé. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. C'est une réalité encore aujourd'hui. C'est une réalité à travers le monde. L'esclavage est toujours là. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, pensez aux noces de Cana, hein? C'est un parallèle, les noces de Cana avec Jésus. Au chapitre 2 de Jean. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. L'huile représente la miséricorde. La miséricorde divine. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, « Va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Donc nous voyons ici, c'est un signe avant-coureur que Dieu a donné. Dieu n'a pas libéré toutes les veuves, tous les pauvres enfants du monde de cette époque-là, ni d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, Jésus a guéri des lépreux, a guéri des aveugles. Il a toujours fait des signes pour montrer qu'un jour, les prémices, ces signes avant-coureurs du royaume à venir, sont certifiés vrais et justes. Ils sont sous la puissance de Dieu. Nous avons des signes dans la Bible de l'autorité divine qui nous montre bien qu'un jour, il en sera fini avec l'esclavage des enfants et avec le négoce, le commerce qui affame les gens, qui en prive certains et qui en gave d'autres. Ça, c'est un exemple. Vous voyez, la maman, elle était dans l'horreur de voir qu'on prend ses enfants, qu'on les vend. À l'époque d'Ésaïe, savez-vous, et de Jérémie, que des parents endettés vendaient leurs enfants comme esclaves à Javan, la Grèce. C'était le pays des homosexuels et des pédophiles, la Grèce, à cette époque-là. Ils les vendaient pour en faire des objets sexuels. Croyez-vous que ça n'existe pas en Thaïlande ou au Cambodge, quand des touristes vont là-bas? Qu'en est-il de Julie et Mélissa? Est-ce que le jugement a été si clair que cela? N'est-ce pas? À propos de toute l'affaire de Julie et Mélissa, de M. Dutroux et de sa femme? Bien des choses sont troubles dans notre société. Je vous donne un autre exemple qui va vous faire peut-être bondir. Vous savez que les vaccins ARN messager que Pfizer a fait, Moderna, vous savez avec quoi c'est fait les codes génétiques ARN messager qu'on introduit dans les vaccins? On les prélève dans les fœtus avortés. Où est-on pour oser faire des choses pareilles? Où en est-on? Où sont les esclaves d'aujourd'hui? Alors, nous allons prendre maintenant un autre texte. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, et vous savez que la Syrie n'a jamais été très, très tendre avec Israël, ça n'a jamais fait bon ménage. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, bien sûr, d'un tas d'ennemis alentour. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, donc du nord du pays d'Israël actuel, qui était au service de la femme de Naaman. Donc voilà une petite esclave. Elle ne l'a pas choisie. Elle va rester toute sa vie là. Mais Dieu va s'en servir. De ce qui est plus humble, de ce qui est petit, Dieu va s'en servir. Elle dit à sa maîtresse, « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, donc Élisée, Le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est une petite gamine, une jeune adolescente peut-être. En tout cas, clairement pour elle, Élisée est un thaumaturge, il fait des miracles. Ce n'est pas exactement comme ça, cela qu'il faut le voir. Dieu fait le miracle. Il répond à la prière d'Élisée. Mais Élisée n'est qu'un homme, il ne fait pas de miracle. Élisée a fait plusieurs miracles dans sa vie. Il a ressuscité un enfant mort. Élie aussi. Jésus aussi. Car la puissance de Dieu s'est démontrée afin de nous montrer qu'un jour, nous ne serions pas prisonniers du tombeau, de la mort. Lisez 1 Corinthiens 15. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que la mort n'a plus autorité. Que la mort est démolie, engloutie par la victoire de Christ à la résurrection et à la croix. Eh bien ici, cette petite jeune fille croit en l'autorité divine et elle sait que Dieu intervient dans la vie d'Israël par ce prophète et peut-être d'autres. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, une fortune, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Et puis il part. Avec toute une compagnie, il part là-bas. Bon, bien sûr, il va tout près du roi. Le roi panique et Élisée l'apprend. Élisée dit qu'il vienne vers moi. Et donc, verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Donc, quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, qui existent toujours, n'est-ce pas? Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et sans retourner, parler avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Voilà une guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le roi a montré sa maladresse et son impuissance, et sa peur, son angoisse. Ensuite, Élisée a montré son calme, la maîtrise, la confiance en Dieu. Le serviteur, lui, a fait ce qu'on lui demandait. Il va dire au grand général de l'armée syrienne qui est devant la porte, « Voilà ce que mon maître te fait savoir. Va dans le Jourdain, trempe-toi-y 7 fois, tu seras guéri. » Et qu'est-ce qui se passe? On voit la rage de cet homme qui est un homme orgueilleux, qui a toujours été un chef, qui a toujours été obéi et qui se prend pas pour rien du tout. Hein? Il est vraiment sorti de la cuisse de Jupiter, comme on peut dire. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes sont comme ça. Et tout d'un coup, le Covid leur fait peur. Et si encore il y avait autre chose après le Covid? Si Dieu permettait qu'il y ait encore autre chose? Qui s'appelle pas la lèpre, mais autre chose. Tous ces gens fiers, imbus d'eux-mêmes, que deviendraient-ils? Ils iraient voir un gourou, ils iraient voir un médium, ils courraient les médecins, ils prendraient des tisanes, des herbes. Et si par hasard ils tombaient sur un croyant qui vraiment sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, et s'ils allaient le trouver pour prier pour eux. Et si cet homme ou cette femme qui a vraiment une foi profonde demandait à Dieu cette guérison, ça défie tout l'entendement des hommes. Ça défie la normalité de notre société. ça défie la vanité de nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui Dieu va humilier les orgueilleux, les sages et les savants. Et évidemment, il n'est pas nécessaire de mettre en valeur quelqu'un qui sert Dieu. Il n'est pas nécessaire de mettre sur le podium quelqu'un qui prie et dont la prière est entendue. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la majesté, la souveraineté, la réalité de Dieu, et il faut changer de vie. Et cet homme qui va, bien sûr, il y a des événements, le serviteur d'Élisée est vicieux et obtient de l'argent de Naaman, alors que Élisée n'en voulait pas, il voulait aucun argent. Mais ce qui est certain, c'est que Naaman n'a pas eu facile. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas facile? Parce que tout simplement, son maître, lui, n'était pas là. Son maître voit son général d'armée guéri, mais son maître adore toujours Satan, ses démons. Et cet homme Naaman, sait que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, des prophètes, est vivant. Comment va-t-il faire? Lui dont le cœur est touché, dont le cœur a été sensibilisé à la présence de Dieu, le Dieu vivant, l'Éternel. Comment va-t-il faire? Et je lis ceci, deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 18. « Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel, de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, donc le roi de Syrie, entre dans la maison de Rimmon, donc le dieu avec une grande statue qui fait des sacrifices humains, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, ben oui, il faut qu'il soit à côté de lui, il l'oblige, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit « Va en paix ». Donc Élisée lui dit « Je connais ton cœur, Dieu connaît ton cœur, tu vas être en apparence d'accord encore avec cette religion diabolique, cette religion de guerre, tu vas être en apparence d'accord avec ton maître, mais au fond, dans ton cœur, tu es déjà autre part, tu es déjà avec le vrai Dieu. » C'est cela qui est dit. Et vous voyez, ce général qui était un grand chef devient humble et dit « Je vais souffrir, je suis dans une drôle de situation. J'ai compris que le vrai Dieu, c'est celui qui m'a guéri. » Et donc, maintenant, c'est fini d'être un grand chef. Il va être chef de l'armée, toujours, mais dans son cœur, il va subir un esclavage. C'est l'esclavage de la façade, du silence. Il va devoir, devant son maître et devant les autres, faire comme si, alors qu'il croit vraiment dans le Dieu d'Israël. Là, il vit un esclavage, il vit une difficulté existentielle extrêmement énorme. Alors, j'aborde ce sujet aujourd'hui spécialement. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes en Chine, en Inde, dans les pays musulmans, qui sont déjà à Christ, qui sont déjà au Dieu de la Bible, et qui, extérieurement, sont habillés comme les autres, extérieurement, se comportent comme les autres. Et déjà, leur cœur est gagné à la vraie réalité du vrai Dieu, à la vraie sainteté de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, chers amis, déjà dans beaucoup de pays, qui sont gagnés par la grâce divine, qui ont compris le salut, l'amour divin révélé en Jésus-Christ, révélé dans la Bible. Vous serez étonné vous-même, et attention, prononcez-vous pour le Seigneur. Ne vous endormez pas, repentez-vous, les derniers jours sont là. Vous serez étonné du grand nombre de gens qui, dans beaucoup de pays, sont déjà à Christ, et qui sont beaucoup plus nombreux que nous, en Occident, dans nos pays soi-disant civilisés, soi-disant chrétiens. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, prenez Ésaïe, c'est 780 avant Jésus. Ésaïe, chapitre 18, verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante qui écrase tout, dont le pays est coupé par des fleuves. Ça s'appelait l'Assyrie. Assyrie, aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est Syrie, Irak. Mais c'est une seule nation très puissante. L'Assyrie. Dont le pays est coupé par des fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et tous les affluents. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc, à Jérusalem, ces peuples vont adorer Dieu. Comment que c'est possible, chers amis? Mais si, il y a déjà Naaman. Quand Jésus revient, qu'il ressuscite ceux qui ont cru dans le Dieu vivant, Naaman est là. Il y a même des gens de Ninive qui seront là. Quand Jonas va prêcher à Ninive, la ville maudite par les Juifs, parce que c'est la capitale de la Syrie. La Syrie était très féroce, conquérante, perverse. Eh bien, elle dominait sur tout le Moyen-Orient. Eh bien, Jonas ne voulait pas y aller. Pourtant, Dieu l'oblige à y aller. Et que se fait-il? Ils se repentent et demandent pardon pour leurs péchés. Et malgré lui, Jonas doit prêcher la repentance et l'amour de Dieu pour les pécheurs que lui, Jonas, n'aime pas. Alors, chers amis, cela préfigure la conversion de ce pays-là. Prenons le chapitre 19. Chapitre 19. À la fin du chapitre 19 de Ésaïe, verset 21. L'Éternel sera connu des Égyptiens, donc le pays du Nil. Et vous savez que le Nil, il y a quatre branches dans le Nil. C'est un fleuve très puissant, mais divisé en quatre branches qui sont énormes. C'est pas des petites rivières comme la Meuse. Ce sont des grands fleuves, avec une grande civilisation dans toutes les régions de tous les quatre bras du Nil. L'Éternel sera connu des Égyptiens, les Égyptiens connaîtront l'Éternel dans ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Sacrifice spirituel, adoration, louange, reconnaissance de Jésus-Christ. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Comme l'Éternel frappe nos pays par, pour le moment, a mis son doigt et il le mettra encore. Pour qu'on change, qu'on plie, qu'on reconnaisse la vérité de son existence. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps-là, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, alors qu'ils sont en pagaille, en conflit, vous voyez qu'ils sont réconciliés. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël, mon héritage. » En 780, prenons maintenant le psaume 87. Oui, Dieu veut faire sortir les peuples de l'esclavage de la haine. Oui, Dieu veut faire sortir les peuples de l'esclavage des religions de haine. Oui, Dieu veut faire sortir les peuples de l'esclavage du péché. Et pour ça, il en a l'autorité, chers amis. L'exemple de Naaman. L'exemple de Ninive qui accepte de se repentir. Psaume 87, 1000 ans avant Jésus. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, Jérusalem, plus que toutes les demeures de Jacob, donc de toutes les villes, les villages d'Israël. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, entendez bien, et Babylone, donc Babylone c'est toute la région du Tigre et de l'Euphrate, parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Philistins, ça a été traduit par Titus et les Romains par Palestina. Le mot philistin, si vous voulez, l'équivalent, c'est palestinien aujourd'hui. Voici le pays des Palestiniens. Tyr, c'est le Liban, avec l'Éthiopie. L'Éthiopie, à cette époque-là, c'était l'Érythrée, la Somalie, le Somaliland, parce qu'il y a un petit état qui s'appelle ainsi, Somaliland, où il n'y a pas de guerre, chose étonnante, bien gérée, tout près de l'Érythrée. Et puis, il y a le Soudan. Tout ça, ça faisait partie de ce qu'on appelle l'Éthiopie de la Bible. L'Éthiopie actuelle est, bien sûr, largement diminuée. Elle n'est plus qu'un quart de ce qu'elle était. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Nés comment ? Nés spirituellement par le Saint-Esprit, en Christ. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Les sources d'eau vive dont Jésus a parlé à la Samaritaine. Les sources d'eau vive du Saint-Esprit dont il a parlé à tous ses apôtres. Quand il serait glorifié sur la croix, l'Esprit serait répandu comme des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Donc, l'esclavage aura un terme. L'esclavage sera un jour terminé. Nous ne lisons pas la Bible et nous ne croyons pas un Dieu sans puissance. Nous croyons un Dieu qui a l'autorité sur l'histoire. Mais alors, vous me direz, mais comment ça se fait que ça tarde? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça tout de suite? On souffre tellement. Il y a tellement de gens qui souffrent, mes amis. Pierre dit ceci dans son épître, que un jour est comme mille ans et mille ans est comme un jour. Chers amis, le temps de Dieu est géré par Dieu. Considérez votre vie. Êtes-vous prêt pour rencontrer Dieu? Si Dieu revenait aujourd'hui, seriez-vous avec lui ou seriez-vous en enfer? Pierre dit dans sa deuxième épître que Dieu est patient. C'est le temps de la patience. Il use de patience envers nous afin que tous se repentent. Voilà pourquoi le royaume n'est pas établi tout de suite. Car il y a des personnes, dont peut-être vous, plusieurs, autre part, dans vos amis, qui doivent se repentir. Allez leur dire, repentez-vous, changez de vie. Allez, n'hésitez pas. Alors le royaume de Dieu sera établi. Alors il sera vite établi. Alors l'injustice, l'iniquité, les abominations humaines seront terminées. Nous avons donc un mandat de responsabilité. Si ceux qui sont appelés par Dieu, sont dans son plan, doivent être sauvés, il faut que nous allions les trouver. Et comment pouvons-nous le deviner? Comme nous ne le devinons pas, évidemment, nous n'avons pas d'huile de cristal, il faut prier, jeûner, il faut lire la Bible, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut rencontrer les gens, les personnes, avec amour, et leur parler de Jésus-Christ, leur parler de l'amour de Dieu, et du péché qui doit être brisé à la croix pour chacun de nous. Éphésiens chapitre 3. Cette année-ci, au verset 12, chapitre 3, verset 12. Cette année-ci, chers amis, ma femme me dit plusieurs fois, quand je rêve, c'est bizarre, chaque fois le Seigneur me dit, repentez-vous, dites-le, dis-le à tout le monde, repentez-vous. Le temps du changement radical est venu, avant qu'il soit trop tard. Éphésiens, chapitre... Oui. chapitre 2, verset 1 plutôt. Vous étiez morts, donc séparés de Dieu, éternellement, par vos offenses, vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, comme tout le monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Donc, Satan, qui égare les gens. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair, c'est-à-dire de l'humain, et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. C'est une question de choix existentiel pour l'éternité. Voulez-vous être mort éternellement, séparé de Dieu, aller en enfer, ou voulez-vous être vivant par le cadeau gratuit de Dieu, le pardon de ses péchés et par le don du Saint-Esprit? Voulez-vous vivant et participer à la résurrection des justes et être établi dans ces nouveaux cieux et nouvelles terres? Tout ce qui a été mis dans la Bible est en train de s'accomplir. De plus en plus, prenez le temps de lire. Et si vous ne comprenez pas la Bible, demandez, je peux vous expliquer, ou d'autres. Du moment qu'ils sont honnêtes avec la parole de Dieu. Du moment qu'ils sont honnêtes. Que faut-il à un être humain pour plaire à Dieu ? Jean, chapitre 1, verset 47. Jean, chapitre 1, verset 47. Que faut-il pour nous, pour plaire à Dieu? Comment peut-on passer d'un cap à l'autre? Oh, c'est pas compliqué, les amis. C'est pas compliqué. Ça ne fait pas partie des fables de Saint-Nicolas ni de Père Noël. Je vais commencer à lire chapitre 1, verset de Jean, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, donc Pierre, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit « Tu es Simon ?» Fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie pierre. Mais Képhas, c'est caillou, hein. C'est caillou. C'est pas le gros rocher, la grosse montagne, c'est caillou. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Un endroit que j'ai visité. C'est joli. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, Deutéronome 18, verset 18, et 20 et 21. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, Deutéronome bien sûr, Deutéronomos, deuxième loi, la première loi étant celle du Sinaï, que Moïse avait dans ses mains, la deuxième, celle qui est déposée dans le livre du Deutéronome. Deuxième loi. A écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, de mensonge, de tricherie. Donc Jésus connaît le cœur de Nathanaël alors qu'il n'est pas devant lui. Il est peut-être à 600 mètres, 1 kilomètre, 300 mètres. Quand Philippe va lui parler, puis alors Nathanaël se décide à venir pour voir qui est ce gaillard-là qu'on dit être le Messie. Et il n'est pas prêt à avaler des couleuvres. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Vous voyez que Nathanaël se connaît lui-même. Il sait le chemin qu'il a choisi et il dit, toi, t'es pas comme les autres, toi, tu me connais. Pour les autres, ça ne compte pas. Pour les autres, que je sois droit, que je sois intègre, que je craigne Dieu et que je conduise ma vie de manière fidèle à Dieu, ça ne les intéresse pas. Et toi, tu ne m'as jamais vu, tu me connais. Mais qui es-tu donc ? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors ça, c'est réellement une expression pour dire, j'ai l'omniscience en moi, l'omniscience divine, je connais tout homme dans son cœur, je connais tout être, parce que je les ai faits, évidemment, et parce que je les jugerai aussi un jour. Nathanaël répondit, lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, à venir, évidemment. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, donc de Jésus-Christ. Fils de l'homme étant le nom de Jésus dans le livre de Daniel, hein, dans plusieurs passages où Daniel voit le Christ. Bon, chers amis, la condition sine qua non qui est demandée, c'est l'honnêteté. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il faut un jour déposer les masques. Il faut un jour déposer les mensonges. Il faut un jour déposer la vanité, l'orgueil, les tromperies, les tricheries. Il faut tout déposer. Il faut choisir le roi de la vérité, Jésus-Christ. Voilà comment la vie peut changer. Voilà ce qu'on appelle la repentance. La conversion. Je prends le chapitre 3 et je vous lis une parole de Jean-Baptiste. Jean, chapitre 3, verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, je vais un peu plus loin. Verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de nous tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Ça, c'est pour nous tous, hein, ça. Et il parle comme étant de la terre, c'est nous. Celui qui vient du ciel est au-dessus de nous tous. Au verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc quand il a rencontré Nathanaël, il a dit qu'il connaissait Nathanaël. Et il lui a montré. Parce qu'il avait en lui l'Esprit Saint sans mesure. Il était de nature divine autant qu'humaine. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc la connaissance. La vérité, la grandeur de la vérité et la souveraineté. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dans Jean, à la fin du chapitre 2, je vous lis ceci, versets 23 à 25. Jean, chapitre 2, versets 23 à 25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, je vais un peu donner un exemple. Quand quelqu'un est soupçonné d'avoir tué une autre personne, que fait-on? On regarde s'il y avait des caméras dans le coin, on regarde s'il y avait des témoins, on regarde les traces des pneus, on regarde l'horaire des deux personnes, on regarde les coups de téléphone, on surveille tout ce qu'il y a dans les smartphones, et on regarde les courriers, on prend des empreintes digitales, on prend l'ADN, hein, et ce qui se passe, on essaye, on crée un jury, on met un jury de 15, 20, 30 personnes parfois, et on fait défiler des tas de personnes qui connaissaient celui qui est inculpé, qui peut être éventuellement coupable. Et chacun de ceux qui sont consultés, qui parlent, qui viennent donner un témoignage sur la personne, cela donne un enrichissement au jury, à tous ces gens-là qui sont là, qui vont donner leur opinion. Le juge avec le procureur et les greffiers de justice sont là et orchestrent les questions, orchestrent la récolte des avis. Et puis ensuite, le jury se réunit avec le juge ou la procureure, le procureur, et on décide, est-il coupable ou pas? Chers amis, pour cela, il faut bien se rendre compte que l'homme, l'être humain, a bien de la peine à savoir réellement ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais pour Dieu, pas du tout. La justice de Dieu est gratuite, elle est instantanée. Il n'y a pas besoin de grandes enquêtes pour Dieu pour savoir qui nous sommes et tout ce que nous avons fait dans notre vie. Il n'y a pas besoin pour Jésus-Christ que le pape, ni les évêques, ni les pasteurs, ni qui que ce soit viennent lui raconter quelque chose à l'oreille. Il y en a un qui essaye. Il y en a un qui essaye. Il essaye de soudoyer Dieu. Prenons Job. Dieu est suffisamment grand dans son jugement, grand dans sa sagesse, dans sa connaissance, pour savoir qui nous sommes, de A à Z. Mais prenons le livre de Job, et regardons ce qui se passe au début du livre de Job. Oui, il y en a un qui s'amuse à accuser chacun de nous. Oui, et parfois, comme la police reçoit des lettres, des dénonciations, etc., anonymes, eh bien, il y en a un qui a le toupet d'aller auprès de Dieu. Livre de Job. Chapitre 1, verset 6. Les démons vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est vraiment comme Nathanaël. Oui? Vous voyez bien que Dieu connaît exactement Job, comme il connaît exactement Nathanaël. Alors, Satan, lui, il n'est pas humilié pour ça. Il n'est pas subjugué par la connaissance infini de Dieu, du cœur, de la morale, du comportement de Job. Non, 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 il continue, lui. Il a d'autres raisons de continuer. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais il tend ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Et l'Éternel dit à Satan, vois-tu, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et bien sûr, des massacres vont arriver. Et je vous le lis. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Guindaï, comme il y en a beaucoup. Il arriva auprès de Job un messager qui nous dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens, donc des Arabes, se sont jetés dessus, les ayant enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. C'est pas nouveau, hein. Ça, c'est 21 siècles avant notre ère. Ça fait 42 siècles. Ils ont toujours gardé la technique de l'épée pour couper la tête, hein. Je me suis échappé, moi, seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre, c'est pas tous les Arabes, mais en tout cas, ceux qui sont guerriers, c'est comme ça. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, et les serviteurs les ont consumés. Donc, la foudre. La foudre. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, donc, les Chaldéens, ce sont des Irakiens. C'est des gens du sud de l'Irak. Pensez à Daesh, l'État islamique et tous ces gens-là. Formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. De nouveau, carnage. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Rien de neuf sous le soleil, c'est comme ça que ça se passe encore là-bas. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Donc, on s'en fiche de Dieu, on profite bien de la vie, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les quatre coins de la maison, et s'est écroulé sur les jeunes gens, ils sont morts. Donc, une tornade. Crac, badaboum. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dans les circonstances d'aujourd'hui, devant les épreuves, qui ont commencé et qui vont se développer. Quelle va être notre attitude? Si nous soupçonnons Dieu d'être l'auteur du mal, là nous avons tout perdu. Nous nous trompons d'ennemi. L'ennemi c'est Satan. Et c'est l'homme. L'être humain. C'est pas Dieu notre ennemi. Dieu nous aime. On le voit, il aime Job. Et si vous lisez le chapitre 42, vous voyez que Job, Dieu lui redonne femme et enfants et troupeaux. Tout. C'est le principe de la résurrection et du royaume de Dieu en Christ. Qui est annoncé dans ce texte vieux de 42 siècles. Alors, même la femme, je vais dire, excusez-moi de l'expression, elle pète les plombs. Et elle dit à son mari, mais tu es fou, allez, maudit Dieu. Chapitre 2, verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, donc le respect de Dieu, l'obéissance. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal? Là, il y a quelque part quelque chose, bien sûr. Dieu permet que le mal touche Job, mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur, c'est Satan et les humains. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job, chapitre 2, verset 10. Chers amis, sortez de l'esclavage. Ne soupçonnez jamais Dieu d'être l'auteur du mal. Ne soupçonnez jamais Dieu de ne pas vous aimer. Ne soupçonnez jamais Dieu de vous maudire. Car alors là, vous êtes vraiment devenus les esclaves de Satan et de votre propre péché. Prenons l'épître de Jacques. C'était quelque chose qui guettait les premiers chrétiens, et c'est toujours la même chose, ça guette tout le monde. Et donc, je vous l'explique. Épître de Jacques, verset 12 et suivant. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, donc l'épreuve, il faut l'accepter, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aha. Verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé, attiré et amorcé, donc accroché, par sa propre convoitise, devenu esclave de sa propre convoitise. La convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, c'est-à-dire qu'on l'a, on a pris le temps de vraiment de la développer en nous, elle est devenue notre réalité spirituelle intérieure, forte et puissante, lorsque la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, c'est-à-dire une séparation totale avec Dieu. Et le péché étant consommé, produit la mort. Séparation éternelle avec Dieu. Donc, nous avons ici l'explication. Dans les mois qui vont venir, ne nous laissons pas incliner à soupçonner de Dieu, Dieu, d'avoir créé le mal. Ne soupçonnons jamais Dieu de mal, de malédiction. Nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est accepter l'épreuve et mettre notre confiance en Dieu. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 16, verset 33. Courage, les amis, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Le croyez-vous? Alléluia. À bientôt, à mercredi.